Le leader de la révolution islamique a appelé les autorités du pays à poursuivre sérieusement l'affaire des empoisonnements dans les écoles et à en punir les auteurs. L'Iran dénonce le soutien américain à l'apartheid israélien. La grève affecte la production nucléaire en France. Et Khartoum et Moscou étudient la production d'hydrocarbures. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le leader de la révolution islamique a appelé les autorités du pays à poursuivre sérieusement l'affaire des empoisonnements dans les écoles et à en punir les auteurs. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a qualifié les récents empoisonnements dans les écoles iraniennes de crimes impardonnables et importants, appelant les autorités à poursuivre sérieusement l'enquête sur cette affaire. C'est un crime contre les éléments les plus innocents de la société, c'est-à-dire les enfants, d'autant plus qu'elle a suscité une insécurité psychologique dans la société et l'inquiétude des familles, a-t-il estimé ce lundi 6 mars, alors qu'il plantait des arbustes à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Si les auteurs de ce crime sont identifiés et condamnés, il n'y aura pas d'amnistie. Ils seront sévèrement punis afin que cela devienne un exemple pour les autres, a ponctué le leader de la révolution islamique. Le président iranien Ebrahim Raisi a qualifié de crime contre l'humanité le nouveau complot de l'ennemi visant à empoisonner des écolières dans plusieurs villes du pays. La nouvelle conspiration de l'ennemi pour semer la peur dans le cœur des écoliers et de leurs parents est un crime contre l'humanité, a déclaré M. Raisi dans son allocution lors d'une session du cabinet dimanche 5 mars. Le président iranien a demandé aux responsables d'enquêter rapidement sur la question et d'informer des résultats afin que leurs inquiétudes puissent être apaisées. Il a souligné qu'il s'agissait d'un nouveau complot de l'ennemi qui a été mené pour semer le chaos dans le pays, la peur parmi les écoliers et manipuler l'opinion publique. Le président Raisi a souligné l'importance de trouver les principaux auteurs de l'acte et de les punir sévèrement. Depuis novembre 2022, certaines écolières iraniennes ont été empoisonnées dans les écoles à travers le pays, comme la ville de Qom, avant de s'étendre à d'autres villes. La plupart des écolières empoisonnées ont souffert de problèmes respiratoires, de nausées, de fatigue et de vertige, certaines d'entre elles ayant été hospitalisées. Les médias anti-iraniens ont diffusé des rumeurs et de la désinformation pour alimenter l'inquiétude dans la société, essayant de dépeindre la République islamique comme posture et hostile aux droits des femmes. Vendredi, le président Raisi a annoncé qu'il avait demandé au ministre iranien du Renseignement et de l'Intérieur de suivre les cas d'empoisonnement. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, a déclaré que l'Iran restait attaché à l'accord de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, et au traité de non-prolifération nucléaire, TNP, les considérant comme la base de ses activités nucléaires, ainsi que la loi stratégique adoptée par le Parlement iranien. Mohamed Islami a fait cette remarque dans une interview dimanche 5 mars à la suite de la visite en Iran du directeur général de l'IAEA, Rafael Grossi. Commentant la visite de Grossi, il a déclaré que les interactions de l'Iran avec l'agence devraient se poursuivre et que nous ne devons pas permettre aux courants sionistes et terroristes destructeurs de profiter de nos relations et de trouver des excuses pour faire pression sur le pays. M. Islami a ajouté que l'accord nucléaire conclu en 2015 ne peut plus être considéré comme la base des activités de l'Iran. Naturellement, le plan global d'action conjoint, auquel l'autre partie ne se conforme pas, ne peut pas constituer la base de nos activités, car la base des activités de la République islamique d'Iran est la loi stratégique votée par le Parlement iranien et la suppression de sanctions injustes qui ont été imposées au pays, a déclaré le chef de l'OIEA. La loi baptisée « Plan d'action stratégique pour contrer les sanctions » a été adoptée par les législateurs iraniens en décembre 2020 pour contrer les sanctions imposées à l'Iran par les États-Unis et leurs alliés occidentaux et promouvoir le programme nucléaire pacifique du pays. en vertu de la loi du Parlement, l'administration iranienne est tenue de restreindre les inspections de la IOA et d'accélérer le développement du programme nucléaire du pays au-delà des limites fixées par le PEGAC. M. Eslami a ajouté « Nous assumons nos responsabilités et réalisons nos activités conformément à la loi stratégique. » Le point important est que nous prenons nos mesures sur la base de cette loi et dans le cadre de l'accord des garanties et du TMP. Mais ils ont l'intention d'aller au-delà de ces étapes conformément à leur double standard et de lancer un battage médiatique. Nous avons annoncé que nous nous engageons à respecter l'accord des garanties et le TMP et l'agence supervise et évalue nos activités. Cependant, cette surveillance doit être effectuée dans des cadres et des considérations acceptables par la République islamique d'Iran, a-t-il déclaré. Se référant au soutien tous azimuts des États-Unis au régime d'Israël, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Les États-Unis n'ont pas le droit de défendre la démocratie et les droits de l'homme, car ils n'y croient pas du tout ». En réponse aux récentes déclarations provocatrices du ministre d'extrême droite du cabinet israélien Netanyahou au sujet de la ville palestinienne de Avara en Cisjordanie, le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani a écrit sur Twitter le dimanche 5 mars « Les États-Unis soutenaient autrefois le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et la CIA a aidé ce dernier à arrêter Nelson Mandela. » Aujourd'hui encore, ils ont un allié stratégique et sont un tenant inconditionnel du régime de l'apartheid israélien. Le haut diplomate iranien a déclaré que les États-Unis ne méritaient pas d'être considérés comme le défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, dans la mesure qu'ils n'y croient pas du tout. Le ministre des Finances du cabinet de Netanyahou, l'extrémiste Bezalel Smotrich, a déclaré mercredi 1er mars qu'il estimait que la ville de Avara devrait être effacée et que c'est Israël qui doit le faire, pas des individus. Faisant référence à l'attaque lancée par des colons contre Avara au sud de Naplouse dimanche dernier, 26 février. En France, la grève des agents d'EDF, qui a débuté vendredi 3 mars contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, continuait de perturber dimanche la production de certains réacteurs nucléaires français. La baisse des capacités de production d'électricité du parc nucléaire représentait dimanche en matinée 3,9 GW, soit l'équivalent de 4 réacteurs, selon les données d'EDF. La CGT avait annoncé vendredi le début du mouvement reconductible en réponse à l'ouverture du débat sur l'article 1 relatif à la disparition d'une partie des régimes spéciaux qui a été adopté par le Sénat tard dans la nuit de samedi. Par ailleurs, on s'attend à ce que la circulation des trains en France soit très fortement perturbée mardi pour les TGV comme pour le TER et très perturbée dans le métro et le RER en Île-de-France pour la 6e journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites, ont indiqué dimanche 5 mars la SNCF et le RATP. Le trafic sera fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs avec un train sur 5 en moyenne pour les TGV, Inouï et Ouigo, ainsi que pour les TER selon la SNCF, dont l'ensemble des syndicats a appelé un mouvement de grève reconductible. La Russie pourrait aider le Soudan à produire du pétrole et à construire des barrages hydrauliques. Le ministre soudanais de l'énergie par intérim, Mohamed Abdullah, a annoncé que son pays était déjà en discussion avec deux sociétés pétrolières russes pour la construction des barrages hydrauliques. La Russie est un pays qui a un grand potentiel technologique. Nous sommes donc prêts à collaborer avec elle dans le domaine de la production pétrolière et du développement de l'infrastructure, a indiqué M. Abdullah. L'officiel soudanais a rappelé que plusieurs sociétés pétrolières étaient déjà présentes dans le secteur pétro-gazier du Soudan. Dans cette optique, Khartoum souhaite coopérer avec Moscou concernant l'amélioration d'autres infrastructures. Le pays a besoin de l'assistance russe pour augmenter ses capacités de production d'énergie. Il espère profiter de l'expérience russe dans la construction des barrages, a confié le ministre. Le Soudan et la Russie ont déjà signé un accord de coopération dans le nucléaire civil, a-t-il ajouté. Dmitri Semenov, directeur du département de la coopération internationale du ministère russe de l'énergie, avait précédemment annoncé que Moscou et Khartoum s'entretenaient en vue d'élargir leur interaction dans le secteur pétrolier. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, je vous présente le commentaire politique. La situation critique des stocks de gaz en Europe. Suite aux sanctions occidentales contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine, le taux de remplissage des stocks souterrains de gaz en Europe est passé sous la barre des 60%, selon l'Association des opérateurs d'infrastructures gazières en Europe. Selon les données, à la fin de la journée gazière du 3 mars, terminé à 8 heures de Moscou, le volume total de gaz dans les stocks souterrains est d'environ 65 milliards de mètres cubes. Il est à noter que les installations de stockage en Europe sont remplies à 59,57%, soit 0,44 point de pourcentage, de moins que la journée gazière précédente. Dans ce droit-fil, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que Moscou a réduit de 80% ses livraisons de gaz par pipeline à destination de l'Union européenne depuis le début de son opération militaire spéciale en Ukraine il y a plus d'un an. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et leurs autres alliés de l'Ukraine ont envoyé à Kiev des dizaines de milliards de dollars d'armes. Ils ont également imposé une série de sanctions économiques à Moscou. Ceci intervient alors que le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh a récemment fait part de l'implication de la marine américaine dans les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022 dans la mer Baltique. L'explosion de ces gazoducs était une guerre économique contre les alliés européens des États-Unis. En plus d'imposer des sanctions économiques irréfléchies et sans fin contre la Russie, les États-Unis ont causé des dommages graves à l'économie des citoyens européens par l'explosion de Nord Stream, a déclaré un expert suédois. Les gazoducs Nord Stream 1 fournissaient à l'Allemagne et à une grande partie de l'Europe occidentale du gaz naturel russe bon marché depuis plus d'une décennie. Une deuxième partie de pipelines, connue sous le nom de Nord Stream 2, avait été construite mais n'est jamais entrée dans la phase opérationnelle.